France Culture.
France Culture. Carnet de santé. Marina Carrère d'Ancos.
Un Français sur dix est malentendant ou sourd, un chiffre qui pourrait augmenter dans les années à venir au vu des pratiques à risque de nombre d'entre nous. Et si l'on pense bien sûr à l'âge pour expliquer la perte d'audition, il faut savoir que 6% des 15-24 ans ont déjà des troubles auditifs et même encore plus tôt, on dénombre près de 1000 enfants qui naissent sourds chaque année. Quelles sont les causes de ces troubles et leurs conséquences? Comment les repérer le plus tôt possible? Quelle solution autre que le port d'appareils auditifs qui concerne tout de même près de 2 millions de Français? Quelle est la place de la chirurgie? Nous répondrons à toutes ces questions et parlerons thérapie génique, une technique qui suscite beaucoup d'espoir. Et puis évidemment, il sera question de prévention essentielle dans ce domaine. Pour évoquer tous ces sujets, nous sommes avec le docteur Ghislaine Lalou. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chirurgien ORL à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, chercheuse à l'Institut Reconnect. Vous coordonnez avec la Fondation pour l'audition un atelier de prévention sur la santé auditive auprès des lycéens avec la participation d'étudiants en médecine de la Sorbonne Université, on en parlera. Et vous êtes également lauréate du prix Émergence scientifique pour la recherche clinique 2022 de la même Fondation pour l'audition, prix acquis pour vos travaux de recherche translationnelle sur les surdités génétiques, évidemment. On va expliquer tous ces termes qui peuvent paraître un peu complexes. Alors, on ne va pas s'intéresser qu'aux personnes âgées, donc on va partir déjà du début de la grossesse. À quel âge, chez le fœtus, l'appareil auditif se développe et à quel moment le fœtus entend ?
Le fœtus entend assez tôt, dès le deuxième trimestre de grossesse, environ au cours de la 22e, 23e semaine de grossesse. Il commence déjà à entendre, il commence déjà à réagir au son extérieur. Et c'est des choses qu'on sait parce que on voit que le fœtus va augmenter sa fréquence cardiaque, va avoir certaines réactions un petit peu brusques à des sons, et puis après se souvenir de certains sons qu'il a entendus pendant la grossesse. Donc le système auditif est très précoce.
Et par où il entend ? Par la paroi, abdominale de sa maman, par la colonne vertébrale ? Ça arrive comment le son ?
Par la paroi abdominale de sa maman. Et d'accord. Ça diffuse à travers le liquide amniotique.
Et pareil à la naissance, qu'est-ce qu'on sait de ce qu'entend un bébé une fois qu'il est sorti du ventre de sa mère?
Le système auditif à la naissance est totalement développé. Ce qui continue à se développer après, c'est toute la partie centrale de l'audition. Donc tout ce qui est cortical, les voies auditives, ce qui va permettre après d'acquérir le langage, d'acquérir sa langue maternelle, c'est ça qui va continuer à se développer après la naissance.
Jusqu'à quel âge?
Jusqu'à à peu près 5-6 ans. À partir de l'âge de 6 ans, les voix sont globalement figées. Et par exemple, un enfant qui n'a jamais entendu et qui n'a pas été pris en charge avant l'âge de 6 ans ne va pas développer de langage. Ça, c'est des choses qui sont malheureusement connues.
Alors, pour bien entendre, il faut beaucoup de choses. Hein. C'est un organe assez complexe. On n'a pas de schéma, mais vous allez nous expliquer le plus simplement possible comment un son nous parvient et comment ensuite il est analysé dans notre cerveau.
Alors, le son va être concentré grâce au pavillon de l'oreille. Déjà, juste la forme du pavillon va faire en sorte que le son arrive dans le conduit auditif externe. Là, il va arriver au fond du conduit, au niveau du tympan. Le tympan va vibrer en réponse au son, qui est en fait une onde vibratoire. Ça va faire vibrer derrière trois petits osselets, le premier étant le marteau, le deuxième l'enclume, le troisième l'étrier. Et puis ce dernier osselet va venir s'enfoncer dans l'organe véritable de l'audition, qui est l'oreille interne. Mmh. Cette oreille interne, en fait, elle est pleine de liquide. Donc pareil, ce liquide va vibrer. Ça va stimuler des petites cellules qu'on appelle les cellules ciliées, qui sont les cellules qui vont transformer le son en un signal qui est perceptible par les nerfs, qui est un signal électrique. Des petites impulsions électriques qui sont envoyées aux nerfs auditifs. Et après, tout le reste se fait dans le cerveau, où ça arrive jusqu'à notre cerveau et jusqu'à ce qu'on puisse le comprendre.
Alors, dans l'oreille interne, il y a le siège de l'audition, il y a aussi le siège de l'équilibre, qui se situe au même endroit. Les deux sens sont liés, si l'un est touché, l'autre peut l'être aussi ou pas ?
Il y a certaines maladies qui touchent les deux, d'autres qui vont toucher soit l'une, soit l'autre. Après, en effet, c'est le même organe. Donc si, par exemple, on a une infection de l'oreille interne, ça va souvent toucher les deux. Ça, c'est...
Alors, vous avez cité beaucoup de structures, elles peuvent toutes être touchées. Hein. Donc, il y a effectivement de très nombreuses causes aux troubles de l'audition. On va commencer évidemment par le plus fréquent, qui est ce qu'on appelle la presbyacousie liée à l'âge. On connaît mieux la presbytie, mais c'est la presbyacousie. À quoi elle est due ? Elle est due au vieillissement de quelle partie de l'oreille ?
Ben, c'est l'oreille interne qui vieillit. C'est toutes les structures de l'oreille interne qui vont vieillir. À la fois les cellules ciliées dont je vous ai parlé, qui sont les cellules qui transforment le son, mais aussi toutes les cellules qui sont autour, les petits vaisseaux qui vont apporter de l'oxygène à l'oreille. Tout ça, ça va vieillir et ça va moins bien fonctionner de manière progressive.
Est-ce que déjà, de manière, en parlant par exemple d'hygiène de vie, on peut freiner cette dégradation? On sait que pour le cerveau, on peut entretenir et développer les connexions entre les neurones, ce qui permet, beaucoup de travail du cerveau, de mieux vieillir. Est-ce que c'est le cas des cellules ciliées notamment? On peut faire travailler nos oreilles ou pas?
On peut faire travailler notre cerveau, pas nos oreilles. En revanche...
Donc c'est la partie cérébrale, la partie...
C'est la partie cérébrale qui travaille. Quand on fait de la rééducation auditive, c'est la partie cérébrale qui travaille. En revanche, on peut... prévenir les pertes auditives parce que l'environnement joue forcément. Donc tout ce qui va être traumatisme sonore, exposition au bruit, et puis d'autres maladies qui vont toucher l'audition, le diabète, le cholestérol, l'hypertension, toutes ces pathologies-là peuvent aggraver des troubles auditifs chez des patients.
Par le biais des atteintes vasculaires ces maladies.
Tout à fait.
D'accord. Donc vous parliez des traumatismes qui entraînent la destruction évidemment de cellules ciliées, les traumatismes sonores au premier rang.
Oui, le traumatisme sonore, c'est clairement un facteur majeur, et encore plus maintenant dans notre société, de troubles de l'audition, que ce soit des traumatismes brutaux, avec des sons très forts qui vont dégrader tout l'audition.
Des concerts, par exemple ?
Des concerts, des accidents, des explosions, ce genre de choses qui peuvent traumatiser tout de suite l'audition. Ou une exposition chronique, et ça c'est typiquement l'exposition professionnelle qui doit être normalement régulée et protégée. Et le loisir avec les casques, l'écoute de la musique qui peut être dangereuse si elle est trop importante et trop forte.
Mais effectivement, les jeunes sont les premiers menacés. Parmi les 15-17 ans, il y a 1 sur 2 qui écoutent entre 1 heure à 2 heures de musique par jour via des écouteurs, ce qui comme ça paraît pas énorme, mais apparemment ça l'est. Et parmi les 15-24 ans, il y a 46% qui s'endorment avec des écouteurs dans les oreilles. Donc 1 à 2 heures, déjà, c'est trop.
Ben ça dépend vraiment de l'intensité sonore. Donc les casques actuellement ou les écouteurs peuvent réguler cette exposition sonore. Et normalement, si c'est trop fort,
Oui, ils ont été censés être bridés, quoi.
Exactement,
si on peut dire.
C'est censé être bridé. Mais c'est sûr que si on écoute à 85 décibels pendant 2 heures, c'est déjà trop, en fait.
C'est quoi 85 décibels? Ça correspond à quoi, par exemple?
85 décibels, ça correspond à un aspirateur, par exemple.
Ah, d'accord, ok.
Donc, si vous avez un aspirateur pendant 2 heures, c'est pas très agréable. Déjà, ça va pas nous faire du bien. La musique, évidemment, c'est plus agréable, mais. Si c'est trop longtemps, ça fatigue nos oreilles, ça fatigue nos cellules ciliées.
Et s'endormir avec, c'est pas bien ?
Alors, s'endormir avec, c'est vraiment pas bien. C'est vraiment pas bien à la fois pour le sommeil en soi, parce que, en fait, on stimule notre cerveau encore alors qu'on est en train de s'endormir. Et puis, en plus, on ne contrôle pas ce qui va se passer. Imaginons, il y a un dérèglement et que le son est d'un coup trop fort. Là, c'est vraiment un risque de traumatisme auditif. Et puis, ça continue, c'est une exposition qui persiste alors qu'on est censé être dans le silence et reposer nos oreilles.
Donc il y a bien sûr les écouteurs. Il y a beaucoup aujourd'hui maintenant d'écouteurs qui sont intra-auriculaires. Ça change quelque chose ou pas? Est-ce qu'il vaut mieux le casque extérieur plutôt que les écouteurs dans les oreilles?
Ça dépend de la qualité des écouteurs. Si c'est des écouteurs qui arrivent à isoler par rapport au son extérieur, à ce moment-là, c'est des bons écouteurs. D'accord. Et on va pas mettre le son trop fort. En revanche, si c'est des écouteurs de mauvaise qualité et qu'on a tendance à monter le son parce que du coup on n'est pas assez isolé de l'extérieur, là on va avoir une exposition trop importante.
Je me renseigne aussi personnellement. Dans les concerts, on met systématiquement des bouchons d'oreille.
C'est bien d'en mettre, ah oui. Les concerts, c'est très très fort. On s'en rend pas compte, mais on est facilement autour de 100 décibels. C'est extrêmement fort. Donc, il vaut mieux mettre des bouchons d'oreille quand on est dans des concerts.
Vous animez, je le disais, avec la Fondation pour l'audition, un atelier de prévention sur la santé auditive auprès des lycéens. Est-ce que vous avez l'impression, qu'ils vous écoutent, j'en doute pas un seul instant, mais est-ce qu'ils sont conscients du problème? Est-ce qu'ils sont prêts à changer?
Ils sont absolument pas conscients du problème avant. Ils sont très intéressés. On l'a fait, alors c'est un atelier qui a commencé l'année dernière et on a eu des très bons retours des lycées et les lycéens sont très intéressés. Mais en revanche, initialement, ils en savent absolument rien. Et même les étudiants qui animent ces ateliers, au début, ils sont pas conscients eux-mêmes des risques qu'ils encourent par rapport au bruit.
Quand il y a eu un traumatisme sonore, un concert ou quelque chose comme ça, une explosion, et qu'on s'en rend compte tout de suite, peut-être on a des acouphènes après, peut-être qu'il se passe quelque chose, est-ce qu'on peut agir très vite pour ne pas risquer cette perte d'audition ?
S'il y a des acouphènes qui apparaissent de manière importante et gênante.
Donc c'est des sifflements, un débourdonnement dans les oreilles,
des choses comme ça. Exactement, des sifflements, débourdonnements. À ce moment-là, il vaut mieux consulter et on peut prendre un traitement médical. C'est des corticoïdes, c'est un traitement anti-inflammatoire, mais qui peut éviter des séquelles de traumatisme auditif.
Donc si on consulte rapidement dans ce cas-là.
Il faut consulter rapidement.
Pour les traumatismes professionnels, est-ce qu'aujourd'hui, tous ceux qui travaillent dans ce contexte ont des outils de protection suffisants, systématiques ? Est-ce qu'il y a une loi bien appliquée ?
Il y a une loi qui a un seuil de protection pour lequel il y a une nécessité d'avoir des casques qui isolent. Le problème, c'est plus l'application. C'est que, en fait, quand on voit ces patients-là en consultation, très souvent, ils nous disent qu'ils les portent pas. Typiquement, c'est quelqu'un qui est sur un chantier, qui a son casque, mais en fait, il l'a autour du cou. Et pour communiquer avec ses collègues, il va enlever son casque et il va pas le remettre. Et donc, au final, même s'ils ont les moyens de protection, ils les portent pas forcément.
Il y a une autre cause de baisse d'audition ou de surdité qui est la prise de médicaments. Ça concerne quel type de médicaments ?
Il y a deux principaux médicaments qui sont délétères pour l'audition. Les premiers, c'est des antibiotiques d'une famille qui s'appelle les aminosides. C'est des antibiotiques qu'on rencontre pas partout. En général, ils sont donnés plutôt pour des infections très sévères, par voie intraveineuse, donc donnés dans un cadre hospitalier. La seule chose pour ces antibiotiques-là en particulier, c'est qu'il y a certaines gouttes antibiotiques pour les oreilles qui contiennent des aminosides. D'accord. Et là, ça peut être dangereux si on a une perforation du tympan. Donc, c'est des choses auxquelles il faut faire attention et il ne faut pas prendre ces gouttes-là à la légère. Les deuxièmes médicaments qui sont à risque, c'est de la chimiothérapie. Donc, pareil, c'est pas quelque chose qui est donné dans un contexte...
Mais ça, c'est difficilement évitable.
Voilà. Et puis, c'est difficilement évitable et ça, c'est monitoré.
Bien sûr.
On doit donner ces traitements-là, on surveille l'audition et on le sait.
Parlons des bébés. Il y a les infections contractées par la maman durant la grossesse qui peuvent entraîner chez le fœtus une surdité ou une baisse d'audition. C'est quoi les germes en cause ?
Il y en a un surtout qui est en cause, qui est le CMV, le cytomégalovirus. C'est un virus
qui est assez fréquent quand même.
Qui est très fréquent. C'est un virus qui va toucher principalement les enfants à la crèche ou en maternelle et qui donne des infections bénignes. C'est de la fièvre, une petite rhinopharyngite, enfin vraiment pas grand-chose. Mais en revanche, si la maman contracte l'infection pendant la grossesse, ça peut donner des séquelles importantes chez le fœtus. La séquelle la moins importante, c'est la surdité. Ça peut donner des atteintes neurologiques assez sévères quand l'infection est contractée assez tôt dans la grossesse. Et c'est la deuxième cause de surdité de naissance après les causes génétiques.
Il y a aussi donc des causes génétiques à ces surdités du bébé.
Oui.
On les connaît bien maintenant ?
On les connaît assez bien. Les surdités des bébés, c'est à peu près un enfant sur 1000 qui naît avec une surdité. Parmi ces surdités-là, il y en a 80% qui sont d'origine génétique. Alors ça aussi, c'est un chiffre qui est pas tellement connu. Mmh. Et souvent, nous, on voit les enfants qui ont grandi, qui sont arrivés à un âge adulte, et qui ont tous des histoires autour de leur surdité qui se sont construites, alors que le plus souvent, c'est d'origine génétique et qu'ils n'ont jamais fait de test génétique. Oui, on les connaît assez bien, on connaît assez bien les gènes qui donnent des surdités de naissance.
Alors, on parlera bien sûr aux thérapies géniques, parce que la recherche est très active et que vous y consacrez vous-même une partie de vos travaux. D'abord, on parle des autres traitements, avant tout de l'appareillage pour la presbyacousie. C'est souvent progressif à cette baisse d'audition, on ne se rend pas toujours compte, en plus on n'a pas forcément envie de s'en rendre compte. Il faut faire du dépistage, il faut faire des audiogrammes réguliers, à partir de quand ?
La presbyacousie, ça commence à partir de l'âge de 50 ans. Un peu comme la presbytie en fait. Ça commence à être gênant plutôt après l'âge de 60 ans. Et donc il n'y a pas encore de dépistage qui est clairement organisé sur le plan national et au niveau de la prise en charge de la santé globale. Mais on estime que c'est quand même bien de faire un audiogramme à 60 ans pour avoir une idée de son audition, même si on n'est pas gêné. Et puis après, de voir en fonction de cet audiogramme-là s'il y a besoin d'un suivi ou s'il n'y a pas besoin de suivi. Il y a il y a aussi des moyens de dépistage assez faciles qui existent. Il y a beaucoup d'applications qui sont gratuites, qui existent et qui permettent de faire du dépistage à la maison. Il y a une application qui s'appelle Aura, H-O-R-A, qui a été développée notamment par la Fondation pour l'audition.
Application gratuite.
Qui est gratuite et qui permet à la maison, avec un casque et un smartphone, de faire un dépistage et de savoir si il faut aller consulter derrière ou pas.
Est-ce que c'est important d'être appareillé le plus tôt possible? Parce que ça, il faut quand même dire que ça a des conséquences importantes de mal entendre. C'est pas uniquement la gêne dans un dîner. Il y a des conséquences réelles.
Il y a des conséquences réelles, notamment sur le plan cognitif, c'est-à-dire sur tout ce qui est problème d'attention, de mémoire, problème exécutif, etc. On sait que la surdité, en fait, c'est le principal facteur de risque modifiable au cours de la vie pour tout ce qui est troubles cognitifs, c'est-à-dire maladie d'Alzheimer, si on parle pour de manière globale. Donc en effet, c'est important de les prendre en charge au plus tôt et de s'appareiller au plus tôt, et ce sera d'autant plus facile de s'appareiller si on fait ça tôt.
Et plus c'est tôt, plus c'est efficace pour mieux entendre, parce que le cerveau est plus plastique ou quoi ?
Plus c'est tôt, plus les patients vont s'adapter facilement, vont accepter l'appareillage et vont le garder avec un très bon bénéfice au long cours.
On a fait quand même des progrès dans la prise en charge de ces appareillages. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que, quels que soient les moyens financiers qu'on a, on peut être bien appareillé?
Oui, il y a une prise en charge à 100% entre la Sécurité sociale et la Mutuelle qui existe depuis 2020 grâce au 100% santé. Ça ne concerne pas tous les appareils, mais ça concerne des appareils de bonne qualité et qui sont suffisants pour une perte auditive. Donc c'est, en effet, on peut le faire.
Autre moyen, c'est évidemment la chirurgie, pourtant moins connue, et avant tout les implants, implants dits cochléaires. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est et comment ça fonctionne, ces implants ?
L'implant cochléaire, c'est un appareil auditif qui est proposé lorsque les appareils auditifs standards qui amplifient le son ne sont plus suffisants. L'implant, en fait, va venir stimuler directement le nerf auditif. Et on le propose lorsque l'oreille interne, qui est censée transformer le son, ne fait plus son travail et ne permet plus de stimuler le nerf auditif. Donc l'implant ne va pas amplifier le son comme un appareil auditif. Il va l'apporter directement au nerf et envoyer directement des impulsions électriques.
Ça, il faut opérer pour ça, parce qu'il y a une partie qui est interne.
Il y a une partie interne dans l'implant. Il y a une partie interne qui est mise en place au cours d'une opération, et puis il y a une partie externe qui ressemble à un appareil auditif. Mais l'opération, c'est une opération qui est très standard, qui se fait maintenant en ambulatoire. Les patients, ils rentrent le matin, ils sortent le soir de l'intervention, qui a très peu de complications. Donc c'est quelque chose qui n'est pas, enfin l'opération en soi n'est pas une opération majeure.
Et c'est-à-dire qu'on peut opérer des gens âgés ?
Ah oui, il n'y a pas de limite d'âge. Ce qui est le facteur limitant, c'est plus si la personne va pouvoir gérer son appareil.
D'accord.
Mais en revanche, il n'y a pas de limite d'âge à l'opération ni à la prise en charge pour l'implant cochléaire.
Alors pour réaliser ce qui se passe après la pose d'un implant, on va écouter une jeune femme qui s'appelle Rose, qui a été appareillée à l'adolescence. Elle témoigne dans la maison des maternelles, c'est sur France 5.
Vous avez été appareillée à 8 ans, donc au moment où on a fait ce diagnostic, qu'est-ce que ça a changé dans votre ressenti ?
Beaucoup de choses. Il y a des sons que j'ai entendus pour la première fois, par exemple l'eau, les voitures, les oiseaux. Et c'était...
Vous n'aviez jamais entendu un oiseau avant ?
Non, c'était effrayant au début.
Je n'ai
pas ressenti ce plaisir-là tout de suite, ça a pris beaucoup de temps. C'est pour ça que souvent les enfants, en tout cas les personnes qui sont appareillées, ne le portent pas au début ou ont du mal à le porter direct.
Parce que ça vous angoissait en fait, le chant des oiseaux ?
Non, mais en fait, c'est très fort, c'est très amplifié. Les appareils auditifs, c'est vrai, t'as l'impression d'être dans une télé constamment. Tu parles dans un micro, c'est des micros, en fait, c'est pas une oreille comme vous.
Oui.
Et donc, tu te rends compte que c'est pas des sons, c'est pas agréable au début.
Oui, c'est ça.
Passer ce début où tout d'un coup, on arrive dans un monde d'entendants, les résultats sont bons ?
Les résultats de l'implant sont très bons. L'implant permet de communiquer normalement dans la vie quotidienne quand le patient est dans le silence et il arrive à comprendre globalement tout ce qui se passe autour de lui. 2/3 des patients implantés arrivent à téléphoner avec leur implant. Et maintenant, les résultats, même dans le bruit, avec l'amélioration des appareils, sont quand même bien améliorés. C'est pas une audition normale, mais ça permet de vivre normalement.
On sonne dans les portiques d'aéroport ?
Non, on ne sonne pas dans les portiques d'aéroport. Alors, il y a un appareil externe qu'il faut enlever quand on passe les portiques d'aéroport, évidemment, comme on enlève sa montre. Et puis après, l'appareil interne, normalement, ne sonne pas. Et puis, les patients qui portent un implant ont toujours une carte de porteur d'implant cochléaire. Donc ça, il n'y a aucun problème.
Et ça veut dire qu'on peut aussi se baigner, par exemple, du moment qu'on enlève la partie externe ?
On peut se baigner. Il y a même des parties externes qui sont adaptées pour l'eau. Il y a certains patients qui font des sports nautiques et qui ont besoin de garder leur appareil. Il y a certains appareils qui sont adaptés et qui ont des coques spécifiques.
Alors, on imagine que pour les tout-petits, il faut appareiller le plus tôt possible pour l'acquisition, bien sûr, du langage. Est-ce qu'il y a un dépistage systématique maintenant à la naissance qui est fait ?
Oui, depuis 2012, il y a un dépistage systématique qui est organisé en France sur tout le territoire. Ça se fait à la maternité. Donc normalement, avant la sortie de la maternité, on est censé avoir un test auditif qui est fait. Et le résultat est reporté sur le carnet de santé. Si le test auditif est normal, c'est parfait, il n'y a pas besoin de reconsulter. S'il n'est pas normal, ça peut être juste parce qu'il y a un peu de liquide dans le conduit, donc il ne faut pas s'inquiéter dès le premier test. Mais en revanche, il faut reconsulter et il faut faire un nouveau test après chez un ORL. Et ça reste du dépistage, donc s'il y a un souci, c'est confirmé dans un milieu spécialisé qui s'occupe des enfants.
La chirurgie pour la baisse d'audition, c'est bien sûr pas que l'implant cochléaire. On peut aller réparer un tympan qui est perforé. Enfin, il y a pas mal de gestes qui existent.
Oui, en fait, c'est vrai que là, pour l'instant, on a parlé de toute la partie qui concerne l'oreille interne. Et là, c'est l'implant cochléaire. Mais en revanche, toute la partie mécanique de l'oreille, le tympan, les osselets, le conduit auditif, tout ça, ça peut se réparer. Donc, il y a de la chirurgie pour un tympan perforé, pour un osselet absent, pour une luxation d'un osselet, un osselet qui a bougé par exemple, tout ça, ça peut se réparer.
On va parler recherche, parce qu'il y a beaucoup de recherches dans ce domaine. Une première question concernant les cellules ciliées dont vous avez parlé, qui sont essentielles et souvent en cause dans les troubles de l'audition. Est-ce qu'on peut en remettre ? Est-ce qu'on peut en greffer ? Est-ce qu'il y a des cellules ciliées artificielles ? Qu'est-ce qu'on peut faire ?
Pour l'instant, ça n'existe pas. C'est évidemment un des pans de recherche qui concerne tout ce qui est cellules souches, en fait. On essaie de partir de cellules souches et de les transformer en cellules ciliées avec différentes techniques. Pour l'instant, ça reste au stade de la recherche. Donc, on n'est pas encore à ce stade-là. On ne sait pas encore remplacer l'organe de l'audition.
Et vous travaillez donc sur la thérapie génique des troubles de l'audition. Vous nous avez dit qu'il y avait beaucoup de gènes qui avaient été identifiés. Où en est la recherche ? Quels sont vos travaux ? Qu'est-ce qu'on fait actuellement ?
Alors, la recherche a beaucoup avancé sur les 20 dernières années. Déjà par l'identification des gènes, parce que pour traiter par thérapie génique, il faut déjà connaître le gène en cause. Donc, d'où l'intérêt de faire un diagnostic génétique et de savoir pourquoi est-ce qu'on a une surdité. Donc il y a de plus en plus de gènes qui ont été dépistés. Et puis en termes de développement des thérapies, là actuellement, il y a une thérapie qui est disponible, qui existe et qui est efficace pour traiter une surdité génétique particulière et qui est au stade de l'essai clinique pour l'instant. Mais on a déjà traité dans le monde des enfants par thérapie génique.
Il y a d'autres recherches de thérapie génique ?
Il y a énormément de recherches de thérapie génique. Il y a beaucoup d'équipes dans le monde qui travaillent là-dessus, avec différents gènes qui sont ciblés. La thérapie génique, en fait, on va venir apporter un matériel génétique directement dans l'oreille interne, parce que l'oreille interne, c'est un organe qui est assez isolé du reste de l'organisme, pour venir soit modifier le gène, soit apporter une copie qui est manquante, et on va apporter la copie saine pour avoir la fonctionnalité. Et donc, pour chacun des gènes de surdité génétique, l'objectif, ce sera de développer une thérapie derrière.
Et on imagine de la faire le plus tôt possible ?
Oui, alors ça dépend vraiment de l'évolution de la surdité, parce que dans les surdités génétiques, il y en a qui commencent dès la naissance, mais il y en a aussi qui commencent au cours de la vie. Il y a certaines surdités génétiques qui commencent à l'âge de 30 ans, à l'âge de 40 ans, des fois même à l'âge de 50 ans. Donc il faut avoir fait le diagnostic pour pouvoir traiter.
Et on précise que de connaître une surdité génétique dans une famille, ça permet aussi de surveiller toute la famille.
Tout à fait. Ça permet de dépister le reste de la famille et de surveiller toute la famille. Et de connaître aussi le risque d'avoir un enfant sourd si on a une nouvelle grossesse. Ça s'appelle du conseil génétique. Quand on fait un diagnostic génétique, il y a du conseil derrière aussi qui va avec.
Il y a un enjeu éthique un peu particulier, mais auquel on imagine que vous êtes confronté. C'est la culture sourde, en fait. C'est que la thérapie génique va guérir, en quelque sorte la surdité, et que tous les sourds ne sont pas d'accord.
Tous les sourds ne sont pas d'accord, alors que ce soit pour la thérapie génique, mais que ce soit aussi pour l'implant cochléaire. Au début de l'implant cochléaire, dans les années 90, ça a été très compliqué. Il y a eu beaucoup de manifestations de des personnes de la culture sourde qui communiquent en langue des signes française, qui est une langue en elle-même, hein, une langue propre.
Oui, parce que j'ai découvert ça, il y a une langue des signes pour toutes les langues, en fait.
Il y a une langue des signes pour toutes les langues, tout à fait.
Ce qui quand même, j'avais pas pensé à ça.
Tout à fait. Et donc, ces personnes-là, c'est vrai, ne s'estiment pas malades. Pour elles, la surdité n'est pas une maladie, c'est plus une culture, une autre culture qu'une maladie. Sauf que, n'empêche que la surdité a des conséquences qui sont plus globales que juste ne pas pouvoir communiquer. Et puis, c'est quand même... La langue des signes française, c'est quelque chose qui n'est pas parlé par toute la population. Donc, ça isole quand même les personnes dans une certaine partie de la population. Donc, évidemment, il y a certaines personnes qui ne sont pas d'accord avec ces recherches-là. Mais je pense que la grosse majorité des personnes sourdes sont favorables et soutiennent ces recherches-là. Et nous, les patients qu'on voit en consultation... Ils veulent être réhabilités, ils veulent pouvoir communiquer avec tout le monde sans difficulté et entendre normalement s'ils pouvaient entendre normalement.
Vous trouvez qu'il y a une évolution dans ce domaine de cette... Parce qu'il y a un moment, ça a quand même été un peu un combat entre ceux qui signaient, ceux qui signaient pas, ceux qui voulaient que leurs enfants signent. C'était assez difficile quand même.
Il y a quand même une évolution, ça reste limité. Et ça reste vraiment dans des familles où il y a... que des personnes sourdes, et en général, du coup, c'est toujours le même gène en cause, et c'est un milieu assez fermé. Faut savoir que la majorité des enfants qui naissent sourds ont des parents entendants. Donc, ces parents-là ne se posent même pas la question. Ils veulent que leur enfant entende. Et ils ne sont pas, il n'y a pas d'opposition entre la langue des signes et d'entendre. On peut être bilingue. On peut avoir un implant cochléaire, pouvoir communiquer à l'oral et pouvoir communiquer en langue des signes aussi. Il y a beaucoup de patients qui utilisent les deux.
Et on en parlait avant l'émission, on n'imagine pas quand on entend et quand on voit ce que ça peut être d'être handicapé d'un de ces organes, mais beaucoup de personnes malentendantes, sourdes, disent que c'est un des handicaps les plus lourds à vivre.
Oui, c'est très lourd. En fait, la surdité isole. Et c'est un handicap qui ne se voit absolument pas. On est dans la rue, on a une surdité, et ben en fait, les personnes qui sont autour ne s'en rendent pas compte. Donc, ils vont être interpellés, ils vont pas l'entendre, ils vont pas répondre. Et ce qu'on nous dit, c'est que on me prend pour un idiot. Mais en fait, c'est pas qu'il est idiot, c'est juste qu'il n'a pas entendu. Donc forcément, il va pas pouvoir répondre, ou il va répondre à côté parce qu'il a mal compris et il a entendu autre chose.
On a parlé prévention des ados ou milieu professionnel. Il y a les enfants aussi qui développent des otites dont certaines peuvent avoir des conséquences sur l'audition, mais certaines otites passent inaperçues. On voit quoi de temps en temps parler à son enfant de dos pour essayer de savoir s'il entend bien. Il faut comment ça se passe?
Oui, alors les otites chez l'enfant qui sont responsables d'une surdité, en général, ça peut donner des petits retards de langage ou des petits problèmes de prononciation. Et à ce moment-là, faut pas hésiter à consulter son pédiatre assez rapidement. Le pédiatre peut regarder les oreilles, va voir qu'il y a une otite. C'est des otites séreuses, en fait. C'est un peu de liquide qu'il y a derrière le tympan et qui empêche la transmission du son. Et si ça donne une surdité, il y a des traitements qui sont très simples, qui sont faits par les ORL. Il faut juste faire une aération au niveau du tympan et ça permet tout de suite de rattraper le retard.
Donc on consulte dès qu'on se rend compte de quelque chose. Merci infiniment d'être venu. Merci à Anne-Claire Bazin pour la préparation de cette émission et à Swad Boukorsa qui l'a réalisée et mise en onde.